Vous écoutez, on lit pour vous.
La longévité humaine s'approche de ses limites. Un texte de Pauline Gravel paru le 7 octobre 2024 dans Le Devoir. L'accroissement spectaculaire de l'espérance de vie que les humains ont connue au cours du 20e siècle semble plutôt s'essouffler que poursuivre sa croissance, affirment des chercheurs états-uniens qui ont analysé les données sur la mortalité de 10 régions du monde. Leur constat, qui est publié dans la revue Nature Aging, indique que l'humain est en voie d'atteindre les limites de sa longévité. À moins que l'on ne découvre une thérapie capable de ralentir le vieillissement biologique, ce qui, pour le moment, est encore très loin de la réalité. Au cours du 20e siècle, l'espérance de vie à la naissance s'est accrue d'environ 30 ans dans les pays à haut revenu, et ce, en grande partie grâce aux avancées de la médecine et de la santé publique. On a d'abord observé une réduction de la mortalité en bas âge, puis, par la suite, aux âges moyens et plus avancés. Ce fut une véritable révolution de la longévité, car l'espérance de vie a connu une accélération, passant d'une augmentation d'une année supplémentaire par siècle, voire deux siècles pendant les deux derniers millénaires, à une moyenne de 3 ans de vie supplémentaire par décennie durant le 20e siècle, soulignent les auteurs de l'article. Depuis la fin du 20e siècle, plusieurs se demandent si cette accélération de l'espérance de vie va se poursuivre encore longtemps ou si elle va ralentir compte tenu des limites de la biologie humaine. En 1990, deux hypothèses ont donc été proposées. D'une part, celle selon laquelle l'humanité s'approcherait de la limite supérieure de son espérance de vie dans les populations ayant la plus grande longévité, étant donné que les gains apportés par l'amélioration de la santé publique et des soins de santé ont été en grande partie accomplis, le principal facteur de risque de mortalité étant le vieillissement biologique contre lequel on ne peut rien. La seconde hypothèse, de l'extension radicale de la vie, qui se fonde sur la découverte et le déploiement de technologies médicales capables d'allonger la vie, prévoit la même augmentation de l'espérance de vie à la naissance que celle observée au 20e siècle, soit une augmentation de 0,3 ans par année ou 3 ans par décennie. Selon cette hypothèse, la plupart des bébés qui naissent aujourd'hui atteindront l'âge de 100 ans, voire plus. L'espérance de vie croît de moins en moins. Des chercheurs des universités de l'Illinois, d'Hawaï, Harvard et de la Californie à Los Angeles ont voulu résoudre la question. Pour ce faire, ils ont mesuré la survie démographique dans les 8 pays dont les populations avaient la plus longue espérance de vie : Australie, France, Italie, Japon, Corée du Sud, Espagne, Suède et Suisse, ainsi qu'à Hong Kong et aux États-Unis. Ils ont mesuré les tendances en matière de taux de mortalité et d'espérance de vie durant la période allant de 1990 à 2019. Et ils ont trouvé que, depuis 1990, le taux d'amélioration de l'espérance de vie a ralenti. Il est devenu progressivement plus difficile d'augmenter l'espérance de vie, écrivent-ils. En résumé, ils ont observé un taux moyen d'amélioration, réduction, de la mortalité chez les personnes de 65 ans et plus de 30,2% pendant les 3 décennies qui se sont écoulées entre 1990 et 2019. Ils ont aussi calculé que si ce même niveau d'amélioration se répétait au cours des 3 prochaines décennies, cela engendrerait une augmentation de l'espérance de vie de seulement 2,5 années, ce qui représente une fraction des 3 ans par décennie prédits par l'hypothèse de l'extension radicale de la vie. Plus précisément, ils ont remarqué que seule la Corée du Sud et Hong Kong ont connu une amélioration de 3 ans par décennie dans l'espérance de vie de leur population. À Hong Kong, cette bonne amélioration est attribuable à la prospérité économique et à des mesures de lutte contre le tabagisme, mais seulement entre 1990 et 2000, précisent les chercheurs. Dans toutes les populations, y compris celle de Hong Kong, l'amélioration de l'espérance de vie de 2010 à 2019 a ralenti par rapport à ce qui avait été observé de 1990 à 2000. L'augmentation moyenne de l'espérance de vie de 1990 à 2019 dans 9 des nations étudiées, sauf les États-Unis, a été de 6,5 ans. Les États-Unis font partie des quelques pays où une plus faible espérance de vie à la fin de chaque décennie comparativement au début de la même décennie a été documentée. Les chercheurs ont également estimé qu'en 2019, en moyenne 5,1% des bébés de sexe féminin et 1,8% des nourrissons de sexe masculin des pays étudiés vivront jusqu'à 100 ans. L'endroit où les jeunes enfants ont la plus grande probabilité de survivre jusqu'à 100 ans est Hong Kong, où il est attendu que 12,8% des femmes et 4,4% des hommes atteignent cet âge vénérable. Aux États-Unis, ce sont 3,1% des filles et 1,3% des garçons. Les chercheurs font remarquer que cette hypothèse de l'extension radicale de la vie pourrait par contre se concrétiser au cours de ce siècle dans certains pays à faible ou moyen revenu. Les limites du ralentissement du vieillissement. Leur analyse porte à croire qu'au cours du 21e siècle, la survie jusqu'à l'âge de 100 ans ne devrait pas excéder 15% chez les femmes et 5% chez les hommes, à moins qu'on arrive à développer des thérapies capables de ralentir significativement le processus de vieillissement biologique. L'Interventions Testing Program du National Institute on Aging, qui vise à trouver des substances qui allongeraient la durée de vie chez la souris, a montré que les thérapies potentielles ont une efficacité limitée, affirment les chercheurs. Parmi les 50 composés qu'ils ont testés jusqu'à maintenant, seulement 12 ont augmenté l'espérance de vie des souris, mais aucune d'entre elles de plus de 15%. L'accroissement de l'espérance de vie à la naissance dans les pays ayant des populations à grande longévité ne doit pas être confondu avec les augmentations anticipées du nombre de personnes atteignant un âge avancé au cours du 21e siècle, car ces hausses découlent des booms de naissances qui ont eu lieu au cours du 20e siècle ainsi que de l'amélioration de la survie des personnes très âgées grâce aux avancées de la médecine, préviennent les chercheurs, qui prédisent une grande augmentation de la population centenaire sur le globe à partir de 2042, c'est-à-dire 100 ans après le début du baby boom ayant suivi la Seconde Guerre mondiale. Pour ces chercheurs, il est clair que la bataille de l'humanité pour allonger la vie a en grande partie été accomplie. Mais cela ne veut pas dire que des améliorations touchant la mortalité à tous les âges, et particulièrement aux âges avancés, ne sont plus possibles ou que l'espérance de vie en bonne santé ne peut plus être améliorée par la modification de facteurs de risque ou la réduction des inégalités. Étant donné les avancées qui s'effectuent en gérosciences, cette discipline qui cherche à ralentir le vieillissement, il y a des raisons de croire avec optimisme qu'on parviendra à ralentir le vieillissement biologique, mais ce ne sera pas au 21e siècle, disent les auteurs de l'étude. C'était « La longévité humaine s'approche de ses limites », un texte de Pauline Gravel paru le 7 octobre 2024 dans Le Devoir.
De bénévole à ami, un texte de Véronique Larocque paru le 18 août 2024 dans La Presse. Comme chaque mercredi, un groupe de marcheurs se réunit devant la station de métro Mont-Royal. Ce matin-là, ils sont une dizaine à bavarder joyeusement en attendant de se mettre en route vers la montagne. Certains tiennent dans une main une canne blanche, d'autres non. Ces gens font partie d'un des 5 groupes de marche de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, ASAMM. Accompagnés par des bénévoles, ces personnes ayant une déficience visuelle montent jusqu'au belvédère du Mont-Royal, puis redescendent vers leur point de départ. Les plus endurants font le tour de la croix. tous les mercredis, il parcourt jusqu'à 15 kilomètres à pied. Oserait-il faire cette grande marche hebdomadaire s'il n'était pas guidé par des bénévoles? C'est rassurant d'être accompagné, mais aussi plus agréable, répond Jocelyne Durand, membre de l'ASAMM. Toutes les personnes ayant une déficience visuelle sont jumelées à un bénévole, puis c'est le départ. Pour se laisser guider, elles posent une main sur le bras de leur accompagnateur et tendent devant elles une canne blanche. Les duos marchent à leur rythme, en parlant de tout et de rien. Certains veulent se faire décrire les alentours, d'autres non. On s'adapte à chaque personne, indique Rénal Lapierre, bénévole pour l'ASAMM depuis 2018. Il poursuit. « Ça m'apporte beaucoup de joie de vivre. Ils sont toujours de bonne humeur. C'est un groupe qui n'est jamais négatif. Ces gens ont beaucoup plus de résilience que les personnes en général. » C'est d'ailleurs des rires qui ont poussé Anne-Marie Jean à se joindre au groupe comme bénévole en 2017. « Je marche beaucoup sur le Mont-Royal. Ce jour-là, je m'arrête à la Maison Smith pour prendre un café. Et là, il y a une bande de rigolos. Je voyais bien que c'était des non-voyants. Ils avaient l'air de tellement bien s'entendre et d'avoir tellement de plaisir. Je me suis informé pour me joindre à eux. Au fil du temps, c'est devenu des amis, se réjouit-elle. Un message qui trouve écho chez tous les autres membres présents ce matin-là. Le groupe, qui a été créé en 2014, a même voyagé ensemble à quelques reprises, notamment aux îles de la Madeleine et en Irlande. Sans les bénévoles, les membres de l'ASAMM n'auraient pas nécessairement l'occasion de voyager, souligne Caroline Rochon, coordonnatrice des programmes pour l'organisme. À vélo. La marche est loin d'être la seule activité proposée par l'association. Kayak, escrime, patin, ski de fond, soccer, raquette, spinning. Les choix sont multiples. Les activités varient d'une saison à l'autre parce qu'on va y aller avec les intérêts des membres et des bénévoles, précise Caroline Rochon. L'activité la plus populaire est toutefois le vélo en tandem. Différentes sorties de groupe sont prévues chaque semaine. Benoît Monette, que l'on rencontre à l'extérieur du centre Claude Robillard, où l'ASAMM a un local, s'occupe surtout des sorties individuelles avec des personnes qui débutent en tandem ou qui n'ont pas la forme physique pour prendre part à de longues randonnées. C'est en lisant un article dans la presse qu'il a découvert l'organisme en 2020. L'idée de faire du bénévolat tout en pratiquant un sport et en permettant à d'autres personnes d'en faire autant lui plaisait beaucoup. Pour beaucoup de gens, c'est leur seule activité de la semaine à part aller à l'épicerie et aller chez le docteur, souligne-t-il. Briser l'isolement des cyclistes amateurs qu'ils guident est très valorisant. Tu rencontres des gens et tu vois que tu fais une différence. On a changé des vies, je le sais. Affirme ému Benoît Monette. Moins de bénévoles depuis la pandémie. Malheureusement, faute de bénévoles, ça arrive trop souvent qu'il y ait des activités annulées, déplore-t-il. Jocelyne Richard, présidente de l'ASAMM, remarque qu'il est plus difficile de recruter des bénévoles depuis la pandémie. Un constat que font de nombreux autres organismes, soutient Geneviève Fecteau, directrice générale du Centre d'action bénévole de Montréal. Autrefois très présents parmi les bénévoles, les aînés se font plus rares. C'est une perte majeure pour la société que ces personnes-là ne reviennent plus parce que ce sont des gens qui ont une super belle expérience de vie, du temps à donner, beaucoup de connaissances dont pourraient bénéficier les gens qui reçoivent des services auprès d'organismes. Pour tous. Geneviève Fecteau rappelle que l'offre de bénévolat est très variée, comme en témoigne l'exemple de l'ASAMM. Il y a tellement de façons de faire du bénévolat. Il faut juste avoir envie de donner du temps. En ce sens, le Centre d'action bénévole de Montréal a amélioré son outil de recherche sur son site Web afin que les intéressés puissent trouver facilement le type de bénévolat qui leur convient, peu importe leur âge ou leurs conditions physiques. Certains membres de l'ASAMM sont d'ailleurs aussi des bénévoles, même s'ils se définissent comme légalement aveugles. Marc-André Germain est trésorier de l'association. Ce n'est pas une tâche qu'on associe généralement à quelqu'un qui ne voit pas. Avec une synthèse vocale, c'est possible, explique celui qui fait également du bénévolat auprès d'un organisme en soins palliatifs. « Je veux simplement redonner », affirme-t-il humblement. C'était « De bénévole à ami », un texte de Véronique Larocque paru le 18 août 2024 dans La Presse.
Le point sur les vaccins après 50 ans, un texte de Marie-Josée Roy, paru dans le magazine Bel Âge. Les vaccins nous immunisent contre plusieurs maladies et nous gardent à l'abri des complications qui peuvent en résulter. Cependant, un manque d'information nous fait parfois hésiter à franchir le pas. Quel vaccin doit-on recevoir si on est âgé de 50, 60, 70 ou 80 ans? Lesquels sont gratuits et quels sont leurs effets? On démêle le sujet. Pourquoi se faire vacciner? Chez les aînés, la vaccination contribue à prévenir les ennuis liés à certaines maladies. C'est la meilleure protection qu'ils peuvent s'offrir, affirme Jean-Félix Côté, pharmacien communautaire et consultant expert de la médication. Avec l'âge, notre système immunitaire s'affaiblit et on est beaucoup plus enclin à contracter certaines maladies comme la grippe ou la pneumonie, contre lesquelles notre organisme se défend moins bien. Souffrir d'une pneumonie à 80 ans est plus dangereux qu'à 30 ans. L'âge n'est pas le seul critère en matière de vaccination. Certaines conditions de santé, comme l'asthme et autres maladies pulmonaires, l'immunosuppression, les maladies intestinales et les troubles cardiaques, peuvent nécessiter une vaccination préventive dès l'âge de 50 ans. Dans ce cas-là, les vaccins sont couverts par la RAMQ. Alors, il est important que les gens en profitent, indique Chantal Sauvageau, médecin spécialiste à l'INSPQ et chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Dans le doute, on en discute avec un spécialiste de la santé. Les vaccins recommandés. COVID-19. Le vaccin est recommandé aux personnes de 60 ans et plus, de même qu'à celles souffrant d'une maladie chronique, maladie du cœur ou du poumon, diabète, cancer, etc. Il est aussi recommandé à ceux et celles qui résident dans un CHSLD ou une résidence pour aînés, de même qu'au personnel de la santé. Une dose de rappel est nécessaire à chaque automne. Le vaccin offre une protection d'environ 6 mois, ce qui correspond à la saison froide au Québec. 2 vaccins sont à l'étude pour la campagne de vaccination automnale. Santé Canada examine les propositions de Pfizer et Moderna pour un vaccin ciblant la souche KP2, de même que la soumission de Novavax pour un vaccin visant à contrer la souche JN1. Les frais sont couverts par la RAMQ. Toute personne âgée de plus de 6 mois qui en fait la demande peut recevoir le vaccin gratuitement. Bon à savoir, un comité d'experts a recommandé la vaccination à l'automne pour les aînés, mais aussi pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques au cœur et aux poumons ou qui font de l'immunodépression, spécifie la docteure Chantal Sauvageau. Diphtérie tétanos. Dose de rappel recommandée à l'âge de 50 ans. Les frais sont couverts par la RAMQ. Bon à savoir, le rappel n'est pas nécessaire si l'on a reçu une dose du vaccin après l'âge de 40 ans. Influenza. Le vaccin est recommandé pour les personnes de 75 ans et plus, de même que pour celles souffrant de certaines maladies chroniques ou qui sont susceptibles de transmettre la grippe à une personne souffrant d'une maladie chronique. Il est aussi recommandé au personnel de la santé de se faire vacciner. Une dose de rappel est nécessaire à chaque automne. Les frais sont couverts par la RAMQ. Toute personne âgée de plus de 6 mois qui en fait la demande peut recevoir le vaccin gratuitement. Bon à savoir, de nombreux vaccins contenant plusieurs types de souches sont offerts. Les personnes plus âgées recevront de plus hautes doses parce que leur système immunitaire est plus faible, précise le pharmacien Jean-Félix Côté. Pneumocoque. On recommande le vaccin Pneumovax 23 à partir de l'âge de 65 ans. Une seule dose est nécessaire. La protection dure plusieurs années. Les frais sont couverts par la RAMQ. Bon à savoir, il existe un autre vaccin, le Prevnar 20, qui diminue à la fois le risque de contracter la maladie et celui de développer des complications. Hélas, il n'est pas couvert par la RAMQ, mais il offre une protection supplémentaire que les gens à risque ou désireux de mieux se protéger devraient considérer, mentionne Jean-Félix Côté. Une seule dose est nécessaire et celle-ci coûte environ 100 $. Le virus respiratoire syncytial, VRS. Le vaccin a été approuvé en 2023 pour les personnes de plus de 60 ans par Santé Canada. Le Comité sur l'immunisation du Québec recommande le vaccin aux personnes résidant dans un CHSLD, de même qu'aux personnes de plus de 75 ans, vivant dans une résidence pour aînés, et aux personnes de 75 ans et plus souffrant d'une maladie chronique et vivant dans la communauté. Non couvert par la RAMQ, il nécessite une seule dose dont le prix oscille autour de 300 $. Bon à savoir, le VRS est une maladie qu'on aimerait éviter, particulièrement chez les groupes à risque de développer des complications, comme les personnes âgées et immunodéprimées, affirme la docteure Sauvageau. Zona. Le vaccin est recommandé à partir de 50 ans, mais uniquement couvert par la RAMQ pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Deux doses sont nécessaires. Elles doivent idéalement être espacées de 2 à 12 mois. Prix, environ 180 $ la dose. Bon à savoir, c'est un vaccin très efficace qui peut provoquer des effets secondaires comme une baisse d'énergie et des douleurs musculaires. Mieux vaut ne pas prévoir de marathon le lendemain, affirme la docteure Sauvageau. Peut-on recevoir plus d'un vaccin à la fois? La réponse est oui. Surtout dans le cas des vaccins contre l'influenza et la COVID-19 qui sont saisonniers. C'est un mythe de croire qu'on peut saturer le système immunitaire en vaccin, mais il ne faut pas oublier que chaque vaccin peut contenir des composantes qui vont générer une réaction immunitaire. Ça dépend donc de la tolérance de chacun, mentionne Jean-Félix Côté, pharmacien. Comment prendre rendez-vous? On se rend sur le portail Clic Santé pour prendre rendez-vous ou on appelle dans une pharmacie. Les pharmaciens sont accessibles et peuvent offrir des conseils en matière de vaccination, mais mieux vaut prendre rendez-vous pour obtenir un service personnalisé, conseille Jean-Félix Côté. Dans le doute, on compose le 811 pour obtenir des informations sur les centres de vaccination situés dans notre région. C'était Le point sur les vaccins après 50 ans, un texte de Marie-Josée Roy, paru dans le magazine Bel Âge.
Apprenons de nos expériences. Un texte de Maxime Rodrigue, paru le 19 août 2024 dans la presse. On ne doit plus simplement nettoyer et attendre le prochain sinistre, exhorte l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, APCHQ, dans cette lettre transmise à la presse. À la suite du passage des vestiges de la tempête tropicale Debby et des inondations dévastatrices qu'elle a causées aux résidences québécoises, nous saluons l'attribution de fonds issus du Programme général d'indemnisation et d'aide financière, PGAF, par le gouvernement du Québec. Cette initiative est un pas important dans le soutien aux sinistrés. Par contre, face à l'intensification prévue des aléas climatiques dans les années à venir. Nous plaidons pour que l'aide aux sinistrés, qu'elle provienne du gouvernement ou des assureurs privés, intègre des stratégies d'adaptation concrètes. Nous recommandons donc que les aides gouvernementales et les versements d'assurance soient assortis de directives visant à renforcer la résilience des habitations face aux inondations futures. On ne peut plus simplement nettoyer et refaire à l'identique, et ce, en attendant le prochain sinistre. Une approche proactive. Parmi les mesures techniques à considérer, la PCHQ propose les 5 actions suivantes. 1. L'utilisation obligatoire de matériaux résistants à l'eau dans les sous-sols et les garages. 2. L'installation de systèmes d'évacuation des eaux de drainage améliorées. 3. L'adaptation des équipements électriques et mécaniques. 4. La mise en place de barrières anti-inondation amovibles pour les portes et fenêtres des sous-sols. 5. L'aménagement paysager adapté autour des résidences pour favoriser l'écoulement de l'eau loin des fondations. En intégrant ces mesures d'adaptation au programme d'aide, nous pourrons réduire considérablement les dommages lors des prochains épisodes d'inondation, diminuant ainsi la charge financière pour les propriétaires, les assureurs et le gouvernement à long terme. L'importance de ces mesures préventives ne peut être surestimée, tant sur le plan humain que financier. Le coût de la prévention est nettement inférieur à celui des réparations post-sinistre, et l'investissement dans la prévention est non seulement judicieux, mais aussi hautement rentable à long terme. Selon l'Institut climatique du Canada, chaque dollar investi dans des mesures d'adaptation entraînerait un rendement de 13 à 15. Nous appelons donc les gouvernements et les assureurs à adopter une approche proactive en matière de résilience face aux inondations. Cette approche permettrait non seulement de protéger les citoyens, mais aussi d'optimiser l'utilisation des fonds publics et des primes d'assurance. Il est temps d'investir dans notre avenir collectif en transformant chaque défi en une occasion de renforcer notre résilience face au changement climatique. La prévention n'est pas seulement plus économique, elle est aussi plus humaine, épargnant aux familles le traumatisme et les perturbations causées par les inondations répétées. C'était « Apprenons de nos expériences », un texte de Maxime Rodrigue, paru le 19 août 2024 dans La Presse.